17h10 TU.
RFI. RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel.
RFI matin.
Bonjour Fabrice Legrier.
Bonjour Julien Coquel-Rohem, bonjour à tous.
Troisième jour de conflit, l'escalade se poursuit entre Israël et l'Iran.
Et Téhéran a mené dans la nuit de nouveaux tirs de missiles sur le centre d'Israël ou encore sur la région ouest de Jérusalem. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir, 8 morts au moins et plus de 130 blessés. L'armée israélienne qui, de son côté, a de nouveau visé de nombreux sites iraniens, notamment à Téhéran. Téhéran où nous nous rendrons dans un instant pour faire un point sur la situation.
Les États-Unis sont également au cœur de l'actualité ce dimanche matin.
Avec la grande parade militaire voulu par Donald Trump qui s'est déroulé à Washington, mais aussi de grandes manifestations à travers tout le pays pour dénoncer la politique du président américain. Loubna Anaki nous fera le récit de ces dernières heures dans ce journal. Notez également qu'Emmanuel Macron se rend aujourd'hui au Groenland, objectif affirmer le soutien de l'Europe à ce territoire menacé par la fonte des glaces, mais aussi par les États-Unis. Et ferrarissime, Nicolas Sarkozy exclu de la Légion d'honneur après sa condamnation dans l'affaire des écoutes.
La confrontation militaire s'accentue entre Israël et l'Iran.
Oui, le régime iranien a lancé plusieurs salves de missiles sur Israël cette nuit et l'armée israélienne, de son côté, continue de viser des sites militaires et nucléaires iraniens. On prend tout de suite la direction de Téhéran avec vous, Siavosh Ghazi, où vous êtes en direct. Siavosh, bonjour.
Bonjour.
Siavosh, quelle est la situation ce matin ?
Alors, ce matin, la situation est calme, mais les frappes ont continué toute la nuit, des frappes qui avaient commencé vers 8h, un peu plus de 8h du soir, ont continué jusqu'à environ 4h du matin. Deux dépôts de carburant dans le nord et sud de Téhéran ont été touchés, donc étaient en feu. Donc, on voit encore ce matin d'épaisses fumées noires. D'autres cibles ont également été frappées ailleurs dans la capitale iranienne. On a entendu de nombreuses détonations toute la nuit, donc, mais aussi des bases militaires dans les alentours de Téhéran ont été également visées, notamment dans la région de Pakhtasht. Les autorités donc ont décidé de fermer la bourse de Téhéran pendant 3 jours et suspendre les examens pour les étudiants de l'université libre islamique pendant 2 jours. Cette université compte plusieurs centaines de milliers d'étudiants à travers le pays. Donc, on est vraiment dans une situation de crise. Il y a eu aussi des frappes durant la nuit contre d'autres villes iraniennes, notamment Isfahan ou Bandar Abbas, mais aussi des villes à la frontière avec l'Irak.
Alors, Siavosh, que dit-on à Téhéran des frappes contre Israël ?
Alors les frappes sont présentées comme un succès, des frappes de missiles et de drones. Les gardiens de la révolution ont affirmé que les frappes avaient visé notamment en plus des villes de Tel Aviv et Haïfa, des installations de production de carburant pour avions de combat et des centres d'approvisionnement énergétique. Les médias iraniens affirment que la raffinerie de Haïfa a été touchée, donc avec des vidéos qui sont invérifiables, qui sont diffusés sur les médias iraniens, et le communiqué des gardiens de la révolution affirme que il y aura une intensification et un durcissement des frappes iraniennes contre Israël si jamais l'État hébreu décidait de poursuivre ses attaques contre l'Iran. Donc une mise en garde très claire. On se prépare à un échange très dur avec Israël et on s'installe dans une situation de guerre qui pourrait durer des jours ou des semaines.
Merci Siavosh Ghazi. Notez cette déclaration de Donald Trump il y a quelques minutes. Si nous sommes attaqués, l'armée américaine répliquera, je cite, avec toute sa force. Le président américain réaffirme que Washington n'a rien à voir avec les attaques israéliennes en cours contre Téhéran. Donald Trump qui estime qu'un accord entre Israël et l'Iran peut être facilement conclu. La Chine, de son côté, soutient l'Iran, je cite, dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, dans la défense de ses droits et intérêts légitimes et celle de la sécurité de son peuple. L'Iran qui a donc riposté aux nouvelles attaques israéliennes, plusieurs salves de missiles ont été tirées. L'armée israélienne vient d'annoncer avoir intercepté 7 drones iraniens lancés vers son territoire. Israël, où le bilan ne cesse de s'alourdir, il fait état d'au moins 8 morts et plus de 130 blessés ce dimanche matin. Des missiles iraniens se sont notamment abattus dans le secteur de Tel Aviv et sur la région ouest de Jérusalem. Et cela fait maintenant 3 jours que Benjamin Netanyahou a lancé cette opération sur le sol iranien. Le premier ministre israélien qui a dit vouloir frapper frapper tous les sites du régime. Face à l'escalade, de nombreux Israéliens semblent soutenir plus que jamais le chef du gouvernement. Reportage à Tel Aviv, Alice Moreno.
Pourtant résidente d'un quartier visé par une frappe iranienne, Sarah soutient plus que jamais le chef du gouvernement.
We must finish with Iran.
Nous devons en finir avec l'Iran. Nous faisons tout le boulot pour tous les pays du monde. Nous n'avons pas le choix car nous sommes le premier pays que l'Iran veut bombarder. Benjamin Netanyahou est très très courageux, vous savez.
Donc vous le soutenez encore plus qu'avant ?
Encore plus, oui, encore plus.
Israël a frappé l'Iran en premier, un déclenchement du conflit assumé ici.
De manière évidente, c'est Israël qui a débuté ces attaques. Mais il faut dire que nous avons déjà connu des guerres avant. Nous ne sommes pas une nation qui cherche la guerre. Nous la menons simplement si nous avons l'impression que ne pas entrer en guerre entraînerait des conséquences plus graves.
Les conséquences, la riposte iranienne, les Israéliens s'y attendaient. David, 70 ans, est chauffeur de taxi. Il n'est pas particulièrement inquiet.
J'ai connu la guerre du Kippour, l'opération de paix en Galilée au Liban. C'est toujours la même chose. Rien de nouveau. À mon âge, je ne m'inquiète plus.
Lui aussi est convaincu que l'Iran représentait bien une menace. Alice Moreno, Tel Aviv, RFI.
Et notez qu'après le journal de 7h temps universel sur RFI, l'ambassadeur d'Iran en France, Mohamed Ahmadinejad, sera votre invité exceptionnel, Julien Coquel-Rohem.
Oui, dans l'actualité ce dimanche également, les États-Unis avec d'un côté la grande parade militaire à Washington et de l'autre des manifestations anti-Trump dans tout le pays.
Oui, Washington accueillait hier un défilé militaire voulu par Donald Trump pour les 250 ans de l'armée. Le président américain fêtait également son 79e anniversaire. Une célébration saluée par les partisans trumpistes qui ont fait le déplacement en grand nombre, alors qu'ailleurs dans le pays, des manifestations massives ont eu lieu contre Donald Trump. À Washington, Lubna Anaki. Lubna, c'était donc un samedi sous haute tension.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Une journée sous haute tension et une journée de grand contraste. On avait d'un côté Washington où le président Trump, son administration et un grand nombre de ses partisans assistaient effectivement au défilé militaire des 250 ans de l'armée. Un défilé dont Donald Trump, tout sourire hier, rêve depuis qu'il a assisté au 14 juillet à Paris lors de son premier mandat. Alors même si on était loin du défilé sur les Champs-Élysées, les gens ont fait la fête avec leurs casquettes MAGA rouges, leurs t-shirts aux couleurs américaines ou à l'effigie de Donald Trump, avec en fin de soirée un grand feu d'artifice. Mais partout ailleurs, une autre Amérique a, elle, marché en grand nombre contre l'autoritarisme du républicain et contre sa politique. 2000 rassemblements en tout. Quelques heurts ont éclaté, notamment à Los Angeles, où le président a déployé la garde nationale il y a une semaine. Tout cela souligne une nouvelle fois les divisions profondes qui secouent le pays et qui le plongent encore plus dans la violence. La journée d'hier a également été marquée par ce drame dans le Minnesota. Une élue démocrate et son mari ont été tués chez eux. Un autre élu local et sa femme ont été gravement blessés. Et pour le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'un acte délibéré de violence politique.
Et un suspect est toujours activé pour ces faits survenus au Minnesota. Et notez pour revenir aux manifestations que l'une d'elles a dégénéré dans l'Ouest à Salt Lake City. Des tirs ont fait un blessé grave. Une personne a été interpellée.
Direction le Mali à présent.
Un calme précaire règne sur le terrain dans le nord après les affrontements de vendredi entre la coalition armée malienne Africa Corps, ex-Wagner, et les rebelles maliens du Front de Libération de l'Azawad, le FLA. Les rebelles qui affirment lancer une offensive générale dans le nord annoncent avoir abattu un avion de la coalition qui, elle, parle plutôt d'un accident dû à la météo. Correspondance régionale de Serge Daniel.
L'avion s'est écrasé avant de prendre feu non loin de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Gao, principale ville du nord du Mali. C'est un Sukhoi de fabrication russe. Les deux pilotes, également russes, sont sains et saufs. Sur des vidéos authentifiées, on aperçoit des combattants russes de Africa Corps, armes en bandoulière, surveillant les restes de l'aéronef. Selon l'armée malienne, les conditions météorologiques défavorables sont responsables de la chute de l'appareil. Faux, répondent les rebelles maliens du Front de Libération de l'Azawad. Ils affirment avoir abattu plutôt l'avion. Le porte-parole du FLA, Mohamed El Maouloud Ramadan.
Nous confirmons que c'est le FLA qui a abattu l'avion d'aujourd'hui. Voilà, c'est les tirs des FLA qui ont causé la chute de cet avion.
Il ajoute que sur le terrain dans le nord du Mali, les rebelles du Front de Libération de l'Azawad lancent une offensive général.
Le moment est venu de reprendre tous les territoires de l'Azawad, c'est-à-dire les cinq régions, Gao, Kidal, Tombouctou, Menakaï, y compris les cercles et les arrondissements qui les composent.
L'armée malienne, de son côté, dans ses derniers communiqués publiés, affirme contrôler la situation sur toute l'étendue du territoire national. À Serge Daniel, Dakar, RFI.
En France, c'est la plus haute distinction française. Nicolas Sarkozy se la voit retirer. C'est rarissime. L'ancien président français s'est vu retirer la Légion d'honneur. On en parle dans le prochain journal à 9h.
Emmanuel Macron attendu ce dimanche au Groenland.
Visite officielle quelques heures avant l'ouverture du G7 au Canada. Il s'agit d'affirmer le soutien de l'Europe à ce territoire autonome du Danemark alors que Donald Trump a menacé de l'annexer. Muriel Paradon.
Le Groenland n'est pas à prendre, déclarait récemment Emmanuel Macron face aux appétits de Donald Trump. Ce territoire autonome du Danemark est riche en métaux rares et se trouve sur les nouvelles routes maritimes du fait du réchauffement climatique. Il suscite donc les convoitises du voisin américain. Mais pour le président français, qui se veut porteur d'un message de solidarité européenne, il faut défendre la souveraineté du Groenland et lui apporter un soutien à la fois politique et économique. Lors de sa visite, Emmanuel Macron sera reçu par le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen et la première ministre danoise Mette Frederiksen. Ils se rendront ensemble à bord d'une frégate pour discuter des enjeux de sécurité de l'Arctique, une zone stratégique. L'autre thématique forte de cette visite sera la lutte contre le réchauffement climatique. Emmanuel Macron devrait survoler un glacier en hélicoptère alors que la fonte des glaces au Groenland s'accélère dangereusement et menace, avec la hausse du niveau des mers, une grande partie de la planète.
Muriel Paradon pour RFI.
Et puis Fabrice, un peu de culture pour finir.
Oui, première exposition en nombre d'entrées en France en 2022. Le Balloon Museum revient à Paris cet été. Exposition intitulée Euphoria, dédiée à l'art gonflable. Ça se passe sous la verrière du Grand Palais à Paris. Créé en 2021 en Italie, le Balloon Museum révolutionne l'art interactif et s'exporte partout dans le monde. Rachel Duceppe.
Suivre un parcours de salle en salle et derrière chaque rideau, une nouvelle ambiance et un nouveau waouh. Fumée, gonflement et ballon bien sûr, l'air sous toutes ses formes dans l'exposition nommée Euphoria. Mais avec une seule règle pour son producteur Roberto Fantauzi.
C'est interdit de ne pas toucher, on mélange art et divertissement.
L'art devient une expérience, une notion difficile à comprendre pour les artistes.
Il y a quelques années, c'était très compliqué pour nous de faire comprendre aux artistes que la nouvelle manière de laisser les gens vivre l'expérience d'un musée, c'est de les laisser interagir avec l'art.
Interactif, mais aussi participatif pour Cyril Lancelin, l'un des artistes de l'exposition.
L'idée, c'est vraiment que les gens voient l'œuvre, mais commencent à interagir avec pour la modifier. Après, il y a une interaction parce que les gens font des photos, ils mettent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un dialogue entre l'art et l'artiste et le public.
Le public placé au centre de l'œuvre devient une donnée incertaine, mais primordiale dans le processus de création.
J'ai dessiné l'œuvre en fonction de la pression de l'air pour que l'œuvre soit pas trop lourde, pour que les gens puissent la porter. Et ensuite, se mettre à l'intérieur et que quand on en met deux, ça arrive à peu près à la hauteur des yeux.
Le Balloon Museum attend 1 million de visiteurs d'ici sa fermeture le 7 septembre prochain.
Euphoria à découvrir sous la verrière du Grand Paris. Fin de ce journal sur RFI. À vous, Julien Coquel-Rouen.
Merci Fabrice Le Grier. À tout à l'heure. Dans un instant, on reparle de l'escalade entre l'Iran et Israël avec Franck Alexandre et avec notre invité Sébastien Boussois. Mais tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous, Saliou Diouf, au menu du football, la Coupe du Monde des clubs est lancée.
Et ça démarre ce soir pour le Paris Saint-Germain, champion d'Europe face à l'Atlético de Madrid au Rose Bowl de Pasadena, enceinte de la finale du Mondial 94 remportée par le Brésil. Le club en profite pour asseoir sa présence marketing avec l'installation d'une PSG House, une grande boutique éphémère installée par le PSG sur Melrose Avenue à Los Angeles. Ex-joueur parisien durant 7 ans, l'Argentin Javier Pastore est désormais ambassadeur du club. Il évoque l'évolution des regards sur son club de cœur.
C'est normal que gagnant la Champions League, c'est complètement un pas en plus. Le plus difficile l'a fait. Maintenant, ça reste seulement de continuer à faire des grands matchs en Ligue des Champions et continuer à gagner le championnat de France. Déjà, le club, il est connu partout. Moi, je voyage beaucoup avec les foot et je vois maillot de Paris Saint-Germain partout. Maintenant, avec les résultats positifs en Ligue des Champions, même dans les championnats, même dans cette compétition que c'est nouveau, il va donner encore beaucoup plus de supporters à niveau mondial. Ça arrive dans les meilleurs moments pour Paris de jouer cette compétition-là.
Javier Pastore interrogé par Loïc Piala, PSG Atlético Madrid, coup d'envoi 19h, temps universel.
Ce n'est pas le seul match au programme aujourd'hui.
Dans le groupe C, le Bayern Munich commence son tournoi face aux Néo-Zélandais d'Auckland. Un match a priori largement à la portée des coéquipiers de Harry Kane qui nourrissent de belles ambitions. Dans l'ombre, loin des mastodontes comme le PSG ou l'Inter Milan, le Bayern avancera masqué et se concentre sur son groupe relevé, composé également de Benfica et Boca Juniors. Écoutez Max Herberl, directeur sportif du Bayern.
Je pense que le vainqueur de la Ligue des Champions est automatiquement le favori de cette nouvelle compétition. Et en tant que finaliste, l'Inter Milan voudra aussi tirer son épingle du jeu. Il y a plusieurs équipes favorites et quelques interrogations. Comment jouent les équipes des autres continents? Donc c'est dur de lister les meilleures équipes. On a deux équipes intéressantes dans notre groupe, le Benfica et Boca Juniors, qui ont déjà réalisé de belles choses dans leur histoire. On a joué Benfica en Ligue des Champions cette saison, ils étaient durs à battre. Notre objectif est clair, on veut sortir des poules.
Aber klar, wir wollen weiterkommen in der Gruppe.
Coup d'envoi de la rencontre, 16h, temps universel.
Et Lionel Messi et son équipe de l'Inter Miami n'ont, eux, pas pu faire mieux qu'un match nul lors du match d'ouverture.
Et oui, donc les coéquipiers de la Pulga ont affronté, il y a quelques heures, les Égyptiens d'Al Ahly au Hard Rock Stadium. Un match à domicile pour l'Inter Miami, une rencontre sans aucun but inscrit de part et d'autre. À noter une très belle performance du gardien international égyptien El Shenawy, qui s'est brillamment illustré.
Et puis un petit mot de basket pour finir avec une rencontre au sommet à Paris aujourd'hui.
Et plus précisément à la Adidas Arena au nord de la capitale, une rencontre des titans entre la Paris Basketball et Monaco. Pour le compte de la finale du championnat de France, c'est la première manche qui se joue aujourd'hui. Coup d'envoi de la rencontre, 14h, temps universel.
Merci Salio Diouf, à tout à l'heure.
RFI Matin.
Et sur RFI, on continue de suivre et d'analyser l'escalade militaire qui semble s'installer entre l'Iran et Israël, alors qu'après avoir déjà frappé des sites nucléaires et militaires, tué plusieurs cadres des gardiens de la Révolution, dont leur chef, des cadres de l'armée et des scientifiques experts du nucléaire, l'armée israélienne est allée plus loin encore cette nuit en frappant des installations pétrolières et gazières, notamment à Téhéran. L'Iran, de son côté, continue de riposter avec des tirs de missiles hier soir et cette nuit en direction d'Israël. Ils ont fait au moins 8 morts et des dizaines de blessés. On en parle dans Ligne de Défense ce matin avec vous, Franck Alexandre. L'attaque israélienne de vendredi était d'une ampleur inédite et la préparation de l'opération a duré 8 mois dans la plus grande discrétion.
Le succès d'une telle opération repose évidemment, Julien, sur le secret. L'armée de l'air israélienne a donc mené ses activités habituelles jusqu'au bout et rien ne laissait présager que 200 chasseurs, soit les deux tiers de la flotte israélienne ou presque, allaient fondre sur l'Iran. Au total, dès la première nuit, 5 vagues de bombardements ont été menées et le site nucléaire historique de Natanz a été visé. C'est une première, soulignait Lieutenant Baum, directeur de recherche de l'IFRI à Paris.
On a très clairement franchi un cap, à la fois de par l'ampleur de l'opération et puis la nature des cibles, hein, puisque le programme nucléaire spécifiquement n'avait jamais été visé. On en a beaucoup parlé, mais au moment des échanges de salves qu'on a pu avoir au mois d'avril et au mois de septembre dernier, Israël s'était retenu, on va dire, de frapper d'une part les infrastructures énergétiques et d'autre part les infrastructures liées au programme nucléaire, vraisemblablement à la demande des Américains, à l'administration Biden encore à l'époque. Et donc là, on a bien franchi un cap avec une intention de désarmer durablement ce programme, puisque l'opération est encore en cours.
Et Franck, Israël indiquait hier soir avoir la maîtrise du ciel dans tout l'ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran.
Oui, en effet, outre le raid aérien, il est à peu près sûr qu'Israël a également engagé des hommes au sol pour mener des actions de sabotage, en particulier avec des drones contre les systèmes solaires. La défense solaire iranienne composée de systèmes russes S-300 a possiblement été réduite au silence. L'armée de l'air israélienne peut donc frapper où elle veut, quand elle veut, indiquait Lieutenant Baum.
La défense solaire iranienne a été rudement mise à l'épreuve au cours des deux précédentes opérations qui avaient donné lieu à des tirs de missiles balistiques ou aéro-balistiques et à un emploi de drones contre ces fameux S-300 produits par la Russie qui visaient à défendre le territoire et un certain nombre de sites stratégiques. On sait aussi que Tsahal dispose d'avions F-35 avec une signature électromagnétique réduite face aux radars d'engagement qui leur permettent donc de rentrer dans les enveloppes de tir de ces systèmes de défense solaire sans être vus. Donc, est-ce qu'il y a également eu des frappes de neutralisation des défenses aériennes ennemies ou est-ce que finalement ce système de défense avait déjà été affaibli et n'avait pas pu être remis en état? Mais en tout cas, très clairement, ça a permis aux Israéliens de tester le dispositif par le passé, de mieux comprendre les failles, et cette fois-ci d'y aller en prenant davantage de risques et en mettant en jeu une très grande quantité d'aéronefs.
Vendredi et samedi, l'Iran a riposté en tirant des dizaines de missiles balistiques contre Israël, et Téhéran joue gros, Julien, car sa crédibilité militaire et stratégique repose bien sûr sur l'efficacité de cette riposte.
Franck-Alexandre, merci beaucoup et bonjour Sébastien Boussois.
Bonjour.
Chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut géopolitique européen, merci d'être avec nous pour continuer d'analyser la situation. On entendait Franck nous dire à l'instant que l'Iran joue sa crédibilité militaire et stratégique sur la riposte qu'il est en train de mener en Israël. Mais de quelles options Téhéran dispose-t-il aujourd'hui ?
C'est bien ça qui est évidemment compliqué, parce que beaucoup de ces pays, comme l'Iran, comme la Russie, ont pu, avant de basculer dans un conflit ou dans une riposte, jouer à la fois sur le bluff ou sur la capacité à se faire craindre, donc respecter. Et puis quand on entre dans le vif du sujet, on voit souvent à quel point il y a un tel écart majeur entre des effectifs au sol, entre des forces et des équipements, et puis la mise en musique de tout ça. Israël est rodé, si je puis dire, à mener des guerres, et c'est ça aussi qui permet d'ailleurs, souvent comme c'est le cas de l'Ukraine aujourd'hui, de pousser les pions, de se perfectionner, de se roder. On a en face de nous des pays qui n'ont pas non plus, et heureusement d'ailleurs, mené des guerres régulières. Donc tout ça évidemment démontre à quel point l'Iran est affaibli, tout simplement parce que il y a encore la tête pensante, si je puis dire, de ce fameux arc chiite, mais il y a des bras qui ont été coupés par Israël depuis des mois. Et jusqu'à maintenant, l'Iran fonctionnait évidemment beaucoup pour terroriser Israël sur le Hezbollah et le Hamas, ce qui n'est plus le cas. Là, aujourd'hui, l'Iran est à nu.
Et Benjamin Netanyahou disait hier vouloir frapper tous les sites et toutes les cibles du régime. L'Iran a menacé en retour de frappes encore plus fortes. Mais quand on voit que l'armée israélienne continue de frapper, affirmer qu'elle a la maîtrise du ciel, qu'elle commence aussi à détruire des infrastructures pétrolières et gazières, à viser le ministère de la Défense, à quel moment le coût de la force va-t-il devenir trop élevé pour Téhéran ?
Alors, le coût de la force ou le coût avec un P de la fin ? Parce que quand on entre dans ce type de guerre, on ne sait évidemment pas du tout comment on va en sortir et surtout si on va en sortir. Parce que les conflits aujourd'hui ont énormément évolué et tout le monde imaginait que sur la Russie et sur l'Ukraine, la chose serait réglée en quelques semaines. Or, on voit bien qu'on est dans l'enlisement. Et c'est le risque avec les conflits aujourd'hui et celui qui risque de se passer avec Israël et l'Iran, c'est que tout cela dure, que tout cela s'éternise. Et le problème, c'est qu'on a face à face à la fois deux personnages et deux régimes aux dirigeants relativement incontrôlables, que ça soit les gardiens de la révolution, bien évidemment, comme le premier ministre israélien, qui, malgré les critiques aujourd'hui, a à nouveau l'union sacrée derrière lui, ce qui, évidemment, va le galvaniser encore plus pour aller jusqu'au bout, comme il a l'habitude de vouloir le faire.
Vous parlez du risque d'un conflit qui s'inscrit dans la durée. Donald Trump, lui, ce matin, affirme qu'il serait facile de conclure un accord entre les deux pays. Est-ce que la diplomatie peut prendre le relais ou ce n'est pas encore le moment ?
Alors moi, je pense qu'il n'y aura pas de conflit généralisé. Je pense que tout devrait se calmer d'ici quelques jours. Non pas parce que je lis dans le marc de café ou que je fais comme tous les experts, moi compris, à essayer de faire de la prospective. Mais on voit bien que beaucoup de conflits ont provoqué la crainte de l'embrasement. Il suffit de voir le Pakistan et l'Inde. Tout ça s'est relativement calmé rapidement parce qu'il y avait la dissuasion nucléaire autour de ça. Je pense qu'on reviendra de toute façon à la diplomatie. Il n'y a pas un seul terrain de guerre où l'on peut faire l'économie de parvenir au moins à un arrangement politique. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'une mauvaise guerre, ou l'inverse en tout cas, parce que, évidemment, aucun des deux pays n'a un intérêt à ce que ça dure. Israël combat sur plusieurs fronts depuis le 7 octobre, c'est rien de le dire. Et le régime iranien, il a le choix entre enclencher la vitesse supérieure ou essayer de sauver son régime. La seule chose qui permettra de sauver son régime, c'est la diplomatie, c'est le retour à la table des négociations et rien d'autre.
Et Israël, vous le disiez, ne peut pas non plus se permettre un conflit dans la durée. On voit d'ailleurs que les frappes iraniennes ne sont pas toutes interceptées. À quel point Israël maîtrise-t-il ce risque aujourd'hui ?
Écoutez, globalement, heureusement qu'il y a la triple
barrières de défense, dont la ligne de David et le dôme de fer. Cela permet évidemment des incidents mineurs. J'ai discuté avec quelques personnes en Israël ce matin qui, même si, entre guillemets, il n'y a que 8 morts, c'est déjà bien sûr évidemment 8 morts de trop, mais vous imaginez à quel point tout cela crée aussi un traumatisme pour la population israélienne, qui conçoit tout à fait que l'Iran, pour eux, est un ennemi éternel à la sécurité de l'État hébreu, mais qui sont à la fois échaudés par rapport à leur premier ministre, parce que ils savent quand ça commence, une fois encore, ils ne savent pas quand ça finit. Le problème, c'est la saturation, évidemment, de toutes ces installations, et à un moment ou à un autre, il y a des missiles ou des drones qui arrivent à passer à travers.
Et la population civile aussi touchée côté iranien. On apprend d'ailleurs que la population de Téhéran, que des habitants de Téhéran commencent à quitter la capitale. Il y a eu, selon le dernier bilan officiel, 78 morts au moins et 320 blessés. Merci Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut géopolitique européen. Très bonne journée. Et bientôt 6h30 en temps universel sur la radio du monde. Avant le prochain journal, notre rendez-vous du dimanche avec les mystères du vivant. C'est dans ta nature. Nous parle aujourd'hui des méduses, ces animaux marins en forme de champignons. Elles sont très belles à regarder, ces méduses, mais attention à leur piqûre redoutable, Florent Guignard.
Une méduse, en anglais, ça se dit jellyfish. Ce n'est pas un poisson, mais c'est bien gélatineux, composé à 98% d'eau. Mais la chanson de Gorillaz se trompe. Une méduse n'est pas ultra rapide, non, elle appartient à la famille du zooplancton, ces organismes portés par le courant marin. Et c'est pour cette raison que les méduses possèdent un venin redoutable, explication de Delphine Thibault, enseignante-chercheuse à l'université d'Aix-Marseille.
Quand on est un animal qui se déplace très peu, il faut développer un système qui permet de tuer ou au moins de paralyser extrêmement rapidement ses proies. Le déclenchement des cellules urticantes est très souvent le résultat du toucher. C'est un phénomène mécanique.
Et non, humain, quand une méduse vous pique, elle ne vous en veut pas particulièrement.
Les humains, c'est pas de la défense, c'est juste des rencontres malencontreuses, hein. On a certainement plus de mortalité par méduse par an que par requin.
En Australie, la méduse la plus dangereuse au monde peut tuer un homme en 2 minutes. Pas mal pour un animal à l'organisme en apparence très simple, mais aux formes et couleurs fascinantes. Apparue sur Terre, enfin en mer, il y a 650 millions d'années.
Pas de cerveau, pas de cœur, mais éventuellement des yeux aussi développés que les yeux humains. C'est parmi les premiers organismes, ce qu'on appelle pluricellulaires, et qui ont pu peupler quasiment tous les océans.
Les humains la redoutent, mais si les méduses prolifèrent, c'est à cause des humains. Elles n'ont rien à craindre du réchauffement climatique qui favorise leur reproduction, ni de l'acidification des océans. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène. Et la surpêche est leur allié qui élimine la concurrence, les petits poissons comme l'anchois et la sardine, Delphine Thibault.
Ils mangent en grande partie la même chose que nos méduses. Cette quantité de nourriture devient disponible pour les méduses qui vont savoir en profiter.
Et c'est pour se nourrir que les méduses remontent une fois par jour à la surface, avant de redescendre à des centaines de mètres au fond de l'eau. Il s'agit des plus grandes migrations au monde. Quotidiennes, on reste médusé. Allez, la question.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Quel est l'arbre le plus grand au monde ?
C'est un séquoia découvert en Californie en 2006, ratiboisé ensuite de quelques centimètres quand le bourgeon à la cime a été abîmé, peut-être par un oiseau. Mais Hyperion, c'est son nom, a repris sa course vers le ciel. On vient de le remesurer, il s'élève à 116 mètres et 43 centimètres. Sa localisation avait été gardée secrète avant d'être dévoilée sur un blog. La forêt qui l'entoure a alors été piétinée et polluée. Depuis, la zone est interdite et les touristes invasifs risquent même la prison, une sanction à la hauteur.
Avant les arbres assassinés, avant que tout soit emporté, je veux.
La douce voix de Pomme et Florent Guignard pour C'est dans ta nature, que vous retrouvez chaque dimanche et à tout moment sur RFI.fr. Prochain journal dans une minute. A tout de suite.
L'atelier des médias. Steven Jambeau.
Un collectif de journalistes et de chercheurs a publié récemment une charte consacrée au traitement des migrations par les médias. Ce texte, intitulé « Charte de Marseille », liste 11 principes. Son ambition, transformer en profondeur la manière dont les médias abordent les questions migratoires. Pour en parler, je reçois deux de ses rédacteurs tout à l'heure, à 11h10, temps universel sur RFI, dans l'atelier des médias.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Le 18 juillet 1976, une jeune Roumaine de 14 ans obtient un 10 sur 10 à l'épreuve olympique des barres asymétriques par équipe. En pleine guerre froide, la performance de la Fée de Montréal devient un enjeu politique. Avec un dessin au faux air de manga, Clem et Marjolaine Solaro nous racontent l'incroyable destin de Nadia Comaneci.
L'art de raconter le monde, avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h41 sur RFI.